Bonjour à tous. Après un mois de confinement lié à l'épidémie de coronavirus, nous demandons à quelques auteurs de la région de nous faire part de leur vécu, de leur réflexion sur cet événement qui nous impacte tous. Pour cette première émission, nous remercions par ordre d'apparition à l'antenne Jean-François Dietrich, Florent Sand et Emmanuel Lescaudron. Soyez indulgents si la qualité sonore de ces témoignages réalisés à la maison n'est pas toujours excellente.
Tout d'abord, prenons l'étymologie. Confiné, touché aux confins, aux limites. Confiné, reléguer quelqu'un dans un certain lieu. Se confiner, se retirer dans un lieu écarté pour y vivre dans la retraite. Dans l'expérience actuelle, nous voici donc dans cette triple acceptation du mot. On nous confine chez nous, c'est-à-dire qu'une puissance publique nous contraint à cela, nous assigne à résidence en quelque sorte, puisque l'on risque une amende si l'on ne respecte pas cette obligation. Il s'agit bien d'une décision réglementaire. Notre territoire, dès lors, confine aux limites de nos maisons, ou exceptionnellement autour de notre domicile, dans un rayon bien défini. Notre espace devient limité. Nous touchons aux confins de ce territoire qui, il y a peu, constituait plutôt une base de départ de nos aventures, de notre travail, de nos loisirs, voire même de nos vies amoureuses. Nous en arrivons donc à nous confiner nous-mêmes, chez nous, pour retrouver cet esprit de cultiver notre jardin. Cela est vrai même d'un point de vue très concret, puisque la première chose qu'ont fait ceux qui le pouvaient, a été de tondre leur pelouse et de faire du jardin. Double paradoxe, également de cette expérience actuelle, c'est que le confinement renvoie à l'idée de coercition. Or, ici, le confinement est fait pour protéger. Et que le confinement renvoie à l'idée de solitude. Or, ici, il est plus que partagé, puisqu'il est quasi mondial. Nous sommes tous unis dans notre isolement, confinés tous ensemble, isolément. Et chacun donc de vivre seul et d'en parler à tous. Chat, visioconférence, Skype, téléphone, mail, etc., etc. On n'a jamais autant parlé pour dire que l'on ne pouvait plus se côtoyer. En fait, on ne se rencontre plus, mais on parle, on communique, plus que jamais sans doute. Ainsi, pour le télétravail, je ne quitte plus mon ordinateur et mon téléphone de la journée. Je ne cesse d'être en conférence téléphonique, visioconférence, le mail réactif, le SMS alerte, en communication permanente avec mes collègues, avec les différentes administrations, avec le siège de mon employeur. Le travail est plus intense que jamais. Je suis reclus dans mon bureau à l'étage, mon épouse dans la salle à manger, et nous télétravaillons du matin au soir. Quand le travail est suspendu, nous écoutons les informations et nous replongeons allègrement dans la virologie et la pandémie. Juste ne pas oublier 20 heures, sortir pour aller applaudir, parler un peu avec les voisins, chacun restant devant sa porte, puis rentrer, manger, regarder les infos, travailler, lire, dormir et recommencer. L'avantage est de pouvoir se lever juste une demi-heure avant le travail et de ne pas s'alarmer de notre chevelure hirsute. Mais il faut penser à couper la caméra de la visioconférence. Enfin, arrivent ces week-ends un peu plus calmes. Le soleil fait du jardinage, j'ai poncé la table du jardin, quelques Skype familiaux fêtaient un anniversaire, chacun un verre à la main, mais pas la même boisson et pas de gâteau. Ce sera pour une autre fois. Le sentiment est étrange de ne pas pouvoir faire de projet. Où allons-nous passer nos vacances? On ne sait même pas s'il y aura des vacances. Julie et Paul pourront-ils se marier? Est-ce que les mairies vont ouvrir? Est-ce que nous pourrons faire les travaux dans la maison? L'entreprise va-t-elle encore exister? Aurons-nous encore notre travail? Serons-nous encore vivants? Le vertige nous saisit. L'homme est un projet. S'il n'a plus de projet, que devient-il? Une attente. combien de temps encore? Le temps s'étire étrangement. Alors que notre vie trépigne habituellement, que l'on n'a jamais assez de temps, qu'il faut toujours aller quelque part, faire des courses, aller voir des amis, faire du sport, aller chercher les enfants à l'école, passer à la banque, nous voici avec trop d'immobilité et pour certains trop de temps. Mais je ne pense pas qu'ils soient très nombreux, ceux qui ont trop de temps. C'est plutôt trop de temps non choisi et pas assez de temps à choisir. L'homme est un projet et un être de choix. S'il n'y a plus le choix, qu'est-ce que notre liberté? Nous connaissons le grand confinement. Expérience à la fois universellement partagée et à la fois tellement individuelle. Comment raconter cela? Cela est-il racontable? Peut-on en faire témoignage? Les discussions seront plutôt du genre « Moi, pendant le confinement, j'ai... Eh bien, moi, par contre... Ah, mais nous, alors, au contraire !» Et chacun de parler et de ne pas écouter. Ce n'est que plus tard, aux enfants et aux petits-enfants qui n'auront pas connu cette période, que l'on pourra raconter. Et l'on dira « On vous raconte, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte. » Et c'est alors que l'on connaîtra une certaine complicité entre anciens, entre ceux qui auront connu le grand confinement, comme ceux qui ont connu des tragédies ou la guerre. Je n'écris pas. En ce moment, je ne peux pas écrire. Manque de temps, peut-être, mais surtout, manque d'envie, manque de disponibilité, disponibilité de l'esprit. Envie de parler d'autre chose et ne pas pouvoir. Et pourquoi raconter ce que tout le monde vit? Pourquoi dire ce qu'il y a à ma fenêtre, puisque tous, nous nous regardons par la fenêtre? Fausse transparence. L'écriture doit révéler l'indicible et taire les évidences. Aujourd'hui, il y a trop de lumière, ou plutôt trop de projecteurs. Le projecteur n'est pas propice à l'écriture. Cela éblouit, cela aveugle. Je ne sais pas ce que nous retiendrons de tout cela. Je ne suis pas assez optimiste en la nature humaine pour croire qu'elle en tirera des leçons. Je ne suis pas assez pessimiste pour me dire que tout redeviendra comme avant et que nous referons les mêmes erreurs. Pas exactement les mêmes en tous les cas. Mais bien sûr, tôt ou tard, nous reprendrons l'écriture. Et bien sûr, nous lirons, puisque au commencement et à la fin sera le Verbe.
Comment vis-tu ce confinement professionnellement et familialement ? Eh bien, professionnellement, tout d'abord, il est vrai que mes activités sont un petit peu réduites. Faisant de la correspondance de presse, aller au contact des gens sans arrêt pour aller leur demander comment ils vont, ce qu'ils font, surtout quels sont les événements qui sont prévus, on va dire qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile. Toujours est-il que j'ai bien entendu une autorisation qui me permet tout de même de me déplacer et de faire quelques reportages. Bien sûr, je les limite au maximum. Je sors une fois par semaine. J'essaye de faire mes reportages sur une heure. J'en fais beaucoup moins aussi, toutes les semaines. J'étais en moyenne à 5 à 8 articles par semaine et maintenant, c'est réduit à seulement 3. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement peu. Mais voilà, mis à part ça, j'ai quand même la chance de pouvoir continuer à un minimum. Après, sur les autres projets, je devais commencer à mettre en place un partenariat avec une association en maraîchage d'insertion pour faire des ateliers cuisine, pour créer des confiseries bio, naturelles, etc. Et c'est vrai que tous ces projets-là sont à l'arrêt pour l'instant, parce qu'il est tout simplement impossible de mettre en place de nouveaux projets, de créer de nouvelles choses, de nouvelles relations dans ces conditions. Voilà, professionnellement, en tout cas, c'est vrai que c'est pas spécialement évident, mais étant donné mes choix de vie, puisque ça fait maintenant, voilà, j'ai pas eu énormément de chance, on va dire, mais ça fait 2 mois et demi que j'ai choisi de quitter ma vie précédente pour me consacrer à l'écriture notamment et à ces petits projets personnels liés à la confection de confiseries et autres petites sucreries. Eh bien, je n'ai pas énormément d'autres activités. Donc ma vie n'est pas en soi tant impactée par le confinement et le coronavirus. Après, socialement, c'est certain que c'est extrêmement compliqué, mais comme pour tout le monde. Voilà, avec mon copain, on avait décidé de vivre le confinement ensemble, sachant qu'on avait une relation qui n'était pas forcément évidente à la base. Et on fait partie des personnes, je pense, pour lesquelles le confinement n'aura pas été bénéfique du tout. Je me retrouve donc aujourd'hui seule dans ma grande maison. Heureusement, il fait beau, je peux sortir, je peux tout de même aller me balader. Il y a des petits chemins un petit peu à droite à gauche, je suis en pleine campagne. J'ai la chance également donc de pouvoir faire un peu de correspondance de presse qui me permet d'aller voir tout de même un peu de gens. Mais c'est vrai que voilà, je suis loin de ma famille qui habite à Grenoble et en région parisienne. Je ne vois pas grand monde. Mais voilà, sinon à part ça, j'ai la chance d'être à la campagne, donc c'est vrai qu'on va pas se plaindre sur cet aspect-là. Quel regard portes-tu sur cette période exceptionnelle et comment vois-tu l'avenir ? Eh bien, je porte un regard à la fois un peu critique et désabusé. Disons que je ne suis pas plus surprise que ça par ce qui est en train de se passer. À dire vrai, je suis surprise par le manque de virulence presque de ce virus, puisque l'on sait qu'au rythme auquel nous allons dans cette société, nous allons tout simplement droit au mur. On en entend parler depuis plusieurs mois déjà, mais cette histoire de permafrost qui fond et qui risque de libérer des virus ancestraux dont on ne saura absolument pas quoi faire contre eux. Je trouve qu'on a un bon petit exercice aujourd'hui avec un virus qui est mine de rien presque sympathique et qui du coup ne détruit pas, ne tue pas absolument toute la population, même si évidemment ce qui se passe est catastrophique. Je pense que ça nous montre un petit peu qu'on doit être humble et modeste vis-à-vis de la planète et de la vie. Car l'homme se croit tout puissant, il pense qu'il peut tout dominer, qu'il peut dominer la nature, qu'il peut dominer les éléments, et face à un ridicule petit virus, quelque chose de minuscule, de microscopique même, il se retrouve immédiatement terrassé. C'est une belle leçon d'humilité, je pense, pour l'humanité. J'espère quelque chose qui fera remettre en question un petit peu ce mode de vie que nous avons tous, qui est très néfaste pour la planète et tout simplement pour l'humain. C'est là, en réalité, qu'est le problème de notre société égoïste qui détruit tout sur son passage et en même temps s'étonne que ses actions aient des conséquences. C'est quelque chose de complètement fou, complètement hallucinant. Quand on réduit les services sanitaires, hospitaliers, quand on réduit les salaires, quand on fait en sorte que l'humanité, une société soit scindée complètement en deux, entre des extrêmement riches et des personnes pauvres et un petit peu moins pauvres, disons, jusqu'à aisées, mais qui n'ont rien à voir avec des personnes qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois, on ne peut pas s'étonner après d'avoir des disparités pareilles dans également le fait de soigner le peuple. On peut pas s'étonner d'avoir un service qui s'essouffle, qui n'a plus la force et pour lequel on se retrouve complètement démuni et dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Moi je trouve ça complètement hallucinant de se retrouver dans une situation pareille, dans un pays qui se dit évolué, qui se dit une des plus grandes puissances mondiales, et de se retrouver démuni à ce point-là. Si on a ces soucis aujourd'hui, c'est parce que l'humain n'est plus au centre de tout. L'humain n'est plus au centre de quoi que ce soit. Parce que la vie n'est plus au centre de rien. La nature n'a plus aucune importance. On ne vit plus avec, on ne vit plus dans la nature, on ne vit plus en harmonie avec la nature, on n'a plus aucun rapport, aucun lien avec la nature. C'est ça qui est fou. On a des tribus en Afrique qui sont capables de communiquer avec les oiseaux, qui connaissent leur chant. Et ces oiseaux vont leur permettre de trouver du miel, vont les amener là où il y a des ruches. Ce genre de lien, ce genre de coopération interespèces, ça existe pour énormément d'animaux sur cette planète. On a perdu tout lien avec la nature, on a perdu tout lien avec les autres espèces, parce que nous avons cherché à absolument tout dominer. C'est quelque chose de monstrueux. Et c'est quelque chose dont nous devons nous rendre compte, parce que nous allons nous faire écraser par cette nature qui n'acceptera plus bien longtemps d'avoir des êtres qui la détruisent de fond en comble. C'est une simple question de régulation, tout simplement. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, qui existe pour toutes les espèces. La régulation d'une espèce qui empiète trop sur son environnement et qui empiète trop sur les autres espèces. Alors, mis à part ça, comment est-ce que je vois l'avenir ? Eh bien, j'aimerais, je rêverais que les hommes se rendent compte tous ensemble de ce qu'ils vivent. Qu'ils se rendent compte que nous sommes tous aujourd'hui logés à la même enseigne. Nous avons tous nos appartements, nos maisons dans le monde entier. Nous sommes confinés chez nous et nous ne pouvons pas bouger de chez nous. J'aimerais beaucoup que l'humanité se rende compte de la chance qu'elle a de survivre suite à ça. Et qu'elle essaye de changer les choses. Mais je ne suis pas vraiment dupe. Je ne suis même pas dupe du tout. Et étant donné ce qui est mis en place au niveau gouvernemental aujourd'hui pour la suite du confinement, la peur qui est instillée dans l'esprit de tous les Français, cette peur de l'économie qui s'effondre, de l'argent qui viendra à manquer, du travail, eh bien, moi aussi j'ai peur. J'ai peur parce que je suis persuadée que dès que le confinement s'arrêtera, tout sera mis en place pour que nous allions encore plus loin dans cette consommation, pour que nous rattrapions le temps perdu. C'est déjà le cas. Des mesures ont été mises en place pour l'après-confinement sur des semaines à 60 heures obligatoires dans les entreprises, des week-ends où il faudra travailler, des congés payés qui sont supprimés. Pourquoi ? Parce qu'il faudra vite renflouer les caisses des actionnaires. Voilà, tout simplement. C'est pas le petit peuple qui va récupérer cet argent-là. Ce sont les actionnaires et ce sont les banques à qui l'État aura emprunté. Alors, j'aimerais beaucoup que, à la fin du confinement, le monde change. Mais je suis persuadée qu'en réalité, à la fin, quand les gens vont sortir de chez eux, ils vont consommer davantage, ils vont avoir peur, ils vont être dirigés et gouvernés par cette peur, et donc, Ils vont suivre ce qu'on leur dit. Ils vont oublier que pendant quelques mois, ils ont découvert quelque chose d'autre. Qu'ils ont découvert une relation avec leurs enfants qu'ils n'avaient pas avant. Qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient faire autre chose de leur vie et qu'ils n'avaient pas besoin d'autant. Que les oiseaux se remettaient à chanter dehors. Mais oui, j'en suis persuadée. À la fin du confinement, tout reprendra comme avant, voire pire. Davantage de pollution, davantage de productivité. Un capitalisme encore plus puissant, encore plus renversant et destructeur pour la nature. Jusqu'à ce que le prochain virus nous terrasse tous, cette fois-ci. Là, peut-être que nous comprendrons, ou que nous recommencerons à nouveau, jusqu'à ce que nous soyons vraiment détruits par la nature et que nous n'ayons absolument plus le choix. Ce confinement aura-t-il une répercussion sur ton travail d'auteur ? Eh bien, il y en a déjà. Je me suis installée dans ma belle et grande maison en pleine campagne, avec poutres, briques, tomates et pierres apparentes, pour écrire au calme toute la journée, ne faire que ça, et profiter de cette vie de bohème, d'écrivain qui ne voit absolument personne et reste enfermé toute la journée. Eh bien, depuis le confinement, la vie est beaucoup plus difficile. Le simple fait de ne pas être libre, de ne pas avoir la liberté d'aller où je veux, d'aller voir des amis, même si je ne le faisais pas tant que ça avant, de sortir, même si je ne le faisais pas tant que ça avant non plus, eh bien, ça impacte mon humeur et ma capacité à écrire. Je me force, bien sûr, tous les matins. Dès que je me lève, à 7h, 7h30, je me pose devant mon ordinateur et j'écris. Mais j'écris beaucoup moins vite qu'avant. La créativité est moins là. La motivation également. Voilà, depuis une semaine, plus d'une semaine, désormais, je n'ai pas écrit, car raison personnelle oblige, mon humeur est au plus bas. Et c'est impossible de se changer les idées. C'est impossible d'aller voir ses amis, d'aller boire un coup, tout simplement, de se balader au bord de la Loire ou de prendre la voiture pour aller au bord de la mer et souffler un bon coup. Récupérer un petit peu cette liberté qui permet tout simplement la créativité. Donc voilà, en effet, ce confinement a une répercussion sur mon travail d'auteur. La correction, c'est facile, pas de problème. Faire de l'administratif, en somme. Mais la créativité, elle, a du mal. Elle a du mal à sortir, elle a du mal à s'égayer, tout simplement. Elle a besoin d'un rythme, certes, mais elle a également besoin de liberté. Et être dans une prison, aussi jolie soit-elle, une prison de paresse, également, une prison qui n'a rien en réalité de négatif quelque part, n'aide pas à la créativité. En tout cas, pour moi. Voilà, ça aura donc une répercussion en effet sur mon travail d'auteur, même si je ne renonce pas, mais mon challenge initial qui a commencé le 11 mars, donc quelques jours avant le lancement du confinement, qui était d'écrire un roman en un mois, eh bien, ne se fera pas en un mois. Voilà qui est certain. En deux, très certainement, ce sera déjà pas mal. Mais pour ce challenge, j'attendrai que la liberté soit à nouveau mienne.
Je vis bien le confinement parce que j'ai cette capacité à me mettre dans ma bulle, celle de l'écrivain. J'écris beaucoup, mais je me restreins pour ne pas trop m'isoler de mes proches. Depuis le début de la pandémie, j'écris un nouveau roman. Je suis au Brésil avec les Indiens d'Amazonie. Les descriptions sont difficiles car je n'y ai jamais mis les pieds. mais je me documente beaucoup. Je lis tous les rapports de Greenpeace sur les catastrophes écologistes. Je vis le confinement comme un mélange de bien-être et d'angoisse. Le bien-être dans l'écriture et l'angoisse de voir l'état du monde dans lequel on vit. Dans ce que nous traversons, j'ai envie de garder le meilleur. Il y a des relations sociales dans le cadre de ce confinement. Contrairement à ce que l'on pense, elles sont dématérialisées mais bien présentes. Dans un temps record, nous avons changé nos habitudes, notre économie. Je fais les courses dans un magasin en circuit court, je range la maison plus que d'ordinaire, et je jardine. Je trouve ça dur d'être enfermé, mais en même temps, la période est idéale pour réfléchir sur soi-même, notre mode de vie, et développer notre part créative. Écrire est devenu ma soupape. La matière première est là, sous mes yeux, et se déroule chaque jour dans un quotidien que l'on doit inventer, dans les rues désertes de nos villes. C'est propice à de vrais scénarios de fiction. J'aimerais tenir un journal de confinement. J'ai entamé une correspondance avec un détenu qui malheureusement s'est stoppé. Les lettres qui sont envoyées ne nous parviennent pas comme à l'accoutumée. Il faudra attendre la fin de cette triste période. Elle doit nous aider à trouver nos repères, accepter l'incertitude, la peur et le face-à-face avec soi-même. En temps normal, nous sommes pris dans un tourbillon d'activités qui ne nous permet pas de nous voir réellement. Nous ne savons plus pourquoi nous faisons les choses. Face à l'isolement, il nous faut trouver de quoi nourrir notre âme. Si j'avais un roman à écrire sur le coronavirus, il s'appellerait Vicode 91, l'anagramme de Covid-19. Un monstre frapperait à la porte de toutes les âmes humaines en leur demandant ce qu'elles ont fait de bien pour l'humanité. Il y aurait beaucoup de morts. Ce Godzilla ferait le tour de la Terre avec une mission d'apocalypse. Il laisserait les enfants avides de découvrir le monde sans sortir, mais s'en prendrait aux adultes irrespectueux de l'environnement. Le confinement donne envie d'explorer d'autres sentiers littéraires. La pandémie est une thématique forte à creuser. Le mot coronavirus est présent dans tous les esprits. Il s'invite dans toutes les conversations, s'engouffre dans toutes les interstices de notre quotidien pour le modifier en profondeur. La peur rôde dans les rues, dans nos autorisations de sortie, frappant au hasard et touchant les plus faibles d'entre nous. Cette peur se retrouve sur les réseaux sociaux. On voit circuler des textes d'anonymes, mais aussi d'auteurs célèbres. Il y a beaucoup d'écrits dans ce que nous traversons. Pour le lecteur, c'est le moment de profiter de ce temps pour découvrir les écrivains de la région. Il y a de vrais talents, des textes originaux qui sortent des sentiers balisés par les grandes maisons d'édition. La plupart proposent une version numérique de leur ouvrage, à un prix accessible. C'est un bon moyen de soutenir les auteurs et les petites maisons d'édition locales. Le confinement a des répercussions sur mon travail d'auteur. Le silence offre une introspection au plus profond de soi-même qui fait décupler l'imaginaire. Comme la nature reprend ses droits, c'est une source d'inspiration, un ciel sans bruit d'avion, sans ligne aérienne. Se plonger dans le bleu des cieux, redécouvrir le chant des oiseaux, entendre le bruit des animaux. Cette tranquillité des bruits extérieurs est propice à l'écriture. On a l'impression d'être seul au monde, mais aussi d'être fragile. Pour les auteurs comme moi qui ont un livre sorti en plein confinement, la promotion n'est pas facile. Tous les acteurs sont touchés, de l'éditeur à l'auteur, en passant par le libraire. Le secteur cherche à se réinventer. Cela passe par la diffusion d'extraits de romans et de nouvelles. Il faut redécouvrir ces nouvelles formes de communication. Cela nous permet de tenir. Des auteurs s'entraident, d'autres s'enregistrent dans le cadre de festivals. Écrire, c'est un moyen de faire face à cette épreuve. J'écris 3-4 heures par jour, mon esprit n'est pas submergé par le Covid-19, mais par de belles histoires à raconter.